Je suis ravie d'annoncer que nous serons à VivaTech ce mercredi 22 mai pour modérer la table ronde « Rendre sa place aux médecins vers une santé plus humaine grâce aux données » organisée par Abbott avec des invités exceptionnels. Alors n'oubliez pas, rendez-vous le 22 mai à 12h30 à VivaTech. Un grand merci à Abbott pour leur confiance. Leçon 3. J'ai reçu une leçon d'humilité. Suite à des études exemplaires et des débuts prometteurs dans l'industrie pharmaceutique, Carlos choisit de quitter le Mexique pour explorer l'Europe. Ce voyage s'avère être un moment charnière de sa vie, éveillant en lui une passion pour l'aventure et la découverte. Peu après son retour, l'envie de repartir le saisit à nouveau. Lorsque l'occasion de s'installer en France se présente, pays de résidence de son compagnon, Carlos saisit cette chance sans hésiter, marquant le début d'un nouveau chapitre de sa vie.
Quand je suis arrivé en France, j'avais cette ambition de tout de suite trouver un boulot dans l'industrie pharmaceutique. Je me suis dit, tout le monde parle anglais dans l'industrie pharmaceutique, bien sûr. On est dans un pays européen, dans des laboratoires multinationales. Effectivement, beaucoup de gens parlent anglais dans l'industrie pharmaceutique. Mais quand on cherche un poste sur une boîte en France, c'est quand même compliqué de tout de suite trouver un boulot sans parler la langue. Ça peut arriver, mais c'était pas mon cas. Je passais plus sur entretien dans différentes entreprises, mais je trouvais pas, en fait. Et du coup, une personne, une RH, dans le laboratoire pharmaceutique où j'ai passé un entretien, m'a dit, il faut absolument que tu parles français et, si possible, que tu aies un diplôme français. Ça va valoriser davantage ton profil. Du coup, c'est pas tombé sur les oreilles d'un sourd. J'ai décidé de faire tout ce que je pouvais pour faire une formation également en France. Mais avant de ça, j'ai fait quand même une année de restauration, en fait, parce que je devais quand même avoir un travail alimentaire, on va dire. Je ne pouvais pas rester sans rien faire. Et du coup, j'ai postulé en intérim pour un poste de serveur. Et mon premier poste, c'était à la Tour Eiffel, au premier étage de la Tour Eiffel. Je ne parlais absolument pas un mot des Français. J'ai eu mon poste 2 semaines après mon arrivée en France. Et sincèrement, c'était un choc pour moi. C'est un choc qui m'a appris à être plus humble parce que au Mexique, j'ai évolué très vite finalement. J'arrive en France, je tombe sur un métier que je connaissais pas du tout et qui en plus au Mexique n'est pas très valorisé, celui d'un serveur. Donc c'était quand même assez choquant pour moi de me retrouver dans cette situation. Mais aujourd'hui, avec du recul encore une fois, c'était tellement enrichissant d'avoir eu ce poste en tant que serveur. Ça m'a appris la culture française déjà. J'ai eu le temps d'apprendre à parler français également, mais aussi j'ai reçu cette leçon d'humilité que j'avais un peu perdue au Mexique. Et là, je me suis dit, plus jamais j'aurai le ballon, je crois qu'on appelle ça comme ça, j'aurai pas les chevilles gonflées. Ah, le melon, exactement. J'aurai plus le melon, parce que justement, on a tous la même valeur, que ce soit un serveur, le responsable du restaurant, le président de la République, on est tous des humains finalement et on ne peut pas faire autant de distinctions entre les gens. Et ça, c'est quelque chose que j'ai gardé jusqu'à aujourd'hui. Je sais aujourd'hui qu'à l'entreprise, un stagiaire, un alternant, un manager, un business partner, un directeur général, on a tous la même valeur et toutes nos opinions ont exactement le même poids en fait. Et c'est la restauration qui me l'a appris. Donc pendant 7 ans des restaurations, c'était pas uniquement qu'un travail alimentaire, c'était des leçons que j'apprenais tous les jours. Mon premier job, du coup, c'était à la Tour Eiffel. Ça durait 2 jours. La raison, c'est toute simple. C'est parce que le chef, en fait, il m'avait dit « Prends un torchon, prends un torchon ». Je savais pas du tout ce que c'était un torchon. Moi, je me suis dit « Un torchon, ah oui, c'est l'assiette. Je vais prendre l'assiette ». Ben non, l'assiette, elle était super chaude. Donc, du coup, je l'ai fait tomber. C'était un plat étoilé que j'ai cassé. Et du coup, les gens, évidemment, le chef était complètement énervé. Il a dit de ne plus revenir. Et du coup, Adeco, c'était l'agence d'intérim, m'a proposé de continuer, mais cette fois-ci au Café de la Paix. Donc, du coup, je suis resté que 2 jours à la Tour Eiffel. Et puis, j'ai travaillé pendant quelques mois au Café de la Paix, une école hyper importante pour la restauration, pour le coup. Mais je me suis pas retrouvé. C'était tellement grand, il y avait tellement de pression que j'ai postulé par la suite sur un restaurant à côté de chez moi, Mami Burger. Et j'ai fait justement quelques mois chez Mami Burger. Il y a eu des moments où je me suis posé la question de rentrer au Mexique parce que c'était compliqué. Le fait de ne pas parler français, je pouvais même pas aller à la boulangerie pour demander un croissant, quoi. Genre, vraiment, j'avais pas le langage. Et puis aussi le côté un peu décourageant de voir sa carrière tomber à l'eau, en fait. C'est ce que j'ai pensé à l'époque. Je me suis dit, ça va être compliqué d'accéder à l'industrie pharmaceutique. Et même Johan, donc du coup mon ex, il me disait, pense à faire carrière dans la restauration, c'est quand même une belle carrière, tu as des aptitudes pour le faire. Mais moi, j'ai toujours gardé en tête, non, je vais revenir dans l'industrie, ce n'est qu'un passage, mais je veux revenir dans l'industrie. Et c'est un peu cette résilience que je te parlais tout à l'heure avec la RH de Lily qui me disait que j'étais pas fait pour le marketing. C'est la même chose dans ces cas, en fait. On me disait, tu réintégreras pas la pharma en France, c'est très compliqué. Moi, je me suis dit, ben, pourquoi pas, en fait. On est tous pareils. Oui, je suis d'origine mexicaine, mais bah, comme plein d'autres gens sont des différentes origines et qui peuvent évoluer dans l'industrie pharmaceutique ou ailleurs. Donc, je n'ai pas lâché l'affaire. Et du coup, j'ai postulé sur un poste chez Groupe Marketing Global Santé, Call Medical, qui cherchait une personne qui ait de l'expérience pharmaceutique, qui parle espagnol et qui parle français. Je commençais déjà, au bout d'un an, bah, je parlais déjà assez couramment. Et du coup, on m'a pris pour un poste de responsable d'équipe. Donc, il y avait des conseillers téléphoniques médicaux en France et une équipe des visiteurs médicaux en Espagne. Donc, du coup, j'avais des voyages entre Barcelone et Paris, et ça, je l'ai fait pendant un an. Mais j'ai toujours eu cette idée de faire une formation, justement, en France. Donc, au bout de quelques mois chez Call Medical, j'ai postulé pour le master des Caroline Mascré, donc le master en marketing pharmaceutique, où j'ai eu le plaisir de te rencontrer. Et du coup, au bout d'un an chez Call Medical, j'ai démissionné, du coup, pour intégrer le master des Caroline Mascré, et faire mon alternance chez Amgen, donc du coup en tant que chef de produit sur des produits d'oncologie.
Le master marketing pharmaceutique et technologie de santé a permis à Carlos de donner un nouvel élan à sa carrière et de retrouver, enfin, le chemin de l'industrie pharmaceutique.
J'ai eu la chance de valoriser mes expériences au Mexique, car à l'issue de mon master, j'ai pu être embauché en CDI, du coup en tant que responsable omnichannel, et créer ma propre équipe. Donc du coup, c'était quelque chose d'exceptionnel. Les gens le disaient, quand on termine une alternance, déjà c'est compliqué de trouver un CDI tout de suite, et encore plus exceptionnel de fonder une équipe, d'être à la tête d'une équipe. Donc effectivement, ils ont valorisé cette expérience au Mexique, et j'ai pu rester chez Amgen plus de 300, du coup, avec un poste à responsabilité qui m'a appris énormément, qui m'a permis justement d'avoir des expériences management dans l'industrie pharmaceutique, ce qui était mon souhait en fait depuis que je suis arrivé en France. Je pense que les situations dans lesquelles j'ai le plus appris, c'est quand je travaille avec mes équipes, avec une personne de mon équipe qui puisse m'apporter quelque chose. Je prends l'exemple des recrutements. J'estime que quand on fait un recrutement, quand on rencontre une personne qui souhaite travailler dans son équipe, c'est déjà une situation où la personne nous fait un service de vouloir venir dans notre équipe. Je me sens toujours honoré de rencontrer des gens, des candidats qui ont cette envie, qui postulent et qui veulent justement découvrir l'entreprise, découvrir l'équipe. Souvent, mes entretiens sont pas des entretiens où je pose la question de « alors, c'est quoi tes qualités, c'est quoi tes défauts ?» C'est plutôt un échange où j'essaie de découvrir s'il y a un match entre ce que la personne veut et ce que moi, je peux l'apporter. Et du coup, je pense que c'est lors de ces entretiens que j'ai le plus appris, parce que finalement, c'est là où on rencontre le plus grand nombre de personnalités, des horizons, des ambitions. Et du coup, je me rends compte effectivement que quelque chose de très français, c'est ce côté humble. C'est que les gens peuvent avoir des ambitions, mais ça va être pas forcément dit. Les gens vont essayer de dire, de mettre en avant ce que les autres font ou ce qu'ils font en équipe. Mais souvent, ils vont pas se mettre en avant eux-mêmes parce qu'ils trouvent que c'est vanté. Et pour le coup, ça, au Mexique, bon, on n'a pas de problème de dire, moi, j'ai fait ça et j'ai obtenu tel résultat. Je pense qu'en France, c'est un peu différent. Et justement, c'est lors de ces types d'entretiens que je me suis rendu compte de ce côté très humble et aussi très français. La première chose à faire pour faire ressortir justement les succès d'une personne, c'est lui demander des exemples de ce que a pu s'accomplir au sein de son équipe et par la suite demander quel était son rôle dans cette équipe. Souvent, c'est un énorme succès que la personne a vendu d'abord comme un succès d'équipe, mais que par la suite, quand on voit un peu quel était le rôle de cette personne était dans les leaders de ces projets, où cette personne avait effectivement joué un rôle tellement important que c'est presque un succès individuel. Mais justement, les gens vont souvent essayer de les cacher sur une réussite d'équipe ou quelque chose qui s'accomplit avec l'aide des autres.
Dans la quatrième et dernière leçon de cet épisode, vous découvrirez que l'accompagnement des autres dans la réinsertion professionnelle et le développement des collaborateurs en entreprise sont des sujets qui tiennent particulièrement à cœur à Carlos, au point d'avoir poussé cet engagement bien au-delà de son métier. À suivre. Merci d'avoir écouté cette leçon du podcast Mentor. Ce podcast est produit par Medcheck Studio, le premier studio spécialisé dans la production et la promotion de podcasts pour le secteur de la santé. Pour continuer à suivre l'actualité de ce secteur, nous vous encourageons à faire un tour sur le site de notre partenaire pharmaceutique. Si cet épisode vous a plu, n'oubliez pas d'en parler à vos amis, à vos familles ou à vos collègues. Nous pouvons tous apprendre et être inspirés par les grands leaders de la santé.